Ali Badou, le 7-9.
Vendredi 10 avril, bonjour et bon réveil. Bienvenue sur France Inter, Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, le confinement commence à porter ses fruits. Pour la première fois depuis plusieurs semaines, des places qui se libèrent dans les services de réanimation. Les autres titres, Agnès.
Un accord à 550 milliards d'euros hier soir pour soutenir l'économie européenne. Le détail dans un instant avec Angélique Bouin. Retour sur la visite surprise d'Emmanuel Macron hier dans le service du professeur Raoult à Marseille. La polémique sur les masques, obligatoires ou pas, des futurs recrues de la police et de la gendarmerie mobilisés pour éviter les départs en vacances ou en week-end. Et puis, si à Paris, le périph' est étrangement vide, de nouvelles autoroutes apparaissent après 19h.
Invité de France Inter ce matin à 7h50 avec vous, Karine Bécard.
C'est un homme d'église qui nous parlera bien sûr de sa foi alors qu'il est coincé, confiné en pleine semaine sainte. Comment venir en aide aux malades? Comment soutenir les familles endeuillées? Le recteur du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, Monseigneur Olivier Ribadeau-Dumas, sera l'invité de France Inter tout à l'heure à 7h50.
À 8h20, en pleine crise, comment se porte le secteur agricole et l'ensemble de la chaîne alimentaire? Risque de pénurie, souveraineté alimentaire, on en parle avec Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA, la Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles. Elle sera l'invitée du grand entretien. Vous pouvez lui poser vos questions dès maintenant au 01 45 24 7000 et sur l'application France Inter.
France Inter. Pour la première fois depuis un mois et demi, le directeur général de la santé, Jérôme Salomon, dans son point quotidien hier soir, a parlé d'un ralentissement de l'épidémie. Il faut bien sûr rester encore très prudent, mais après 3 semaines de surchauffe dans les hôpitaux, le solde entre les entrées et les sorties en réanimation est désormais négatif. En clair, 82 lits se sont libérés hier. On a donc, c'est un fait, atteint le fameux plateau. Phénomène observé aussi à l'hôpital Cochin à Paris où nous faisons régulièrement le point depuis le début de l'épidémie. Véronique Julia.
En Ile-de-France, le solde entre les entrées et les sorties de réanimation était légèrement négatif hier soir et les entrées sont presque 2 fois moins nombreuses qu'il y a 10 jours. Après des semaines passées à se battre au quotidien pour trouver des lits disponibles, le professeur Alain Cariou, réanimateur et coordinateur de la cellule de crise à l'hôpital Cochin à Paris, reconnaît que ce plateau désormais atteint est une première victoire.
C'est toujours bon à prendre pour le moral. Je me sens effectivement plus léger. On est dans la période du 30e kilomètre pour un marathonien, c'est-à-dire de se dire on a avancé, j'ai pas craqué, il faut que je garde le rythme, mais je sens que je vais pouvoir y arriver, quoi. On a le sentiment d'avoir maîtrisé quelque part la situation et qu'en tout cas, s'il n'y a pas de deuxième vague inattendue et que le phénomène est contrôlé sur le plan épidémiologique, on va y arriver.
Car déjà, la suite inquiète. Les personnels soignants sont exténués et les malades qui vont sortir de réanimation après des semaines de coma vont nécessiter beaucoup de soins. Quant à l'épidémie elle-même, le confinement et lui seul a permis qu'on atteigne ce plateau, mais c'est finalement assez artificiel. Et à la moindre incartade, la courbe peut s'emballer à nouveau pour un deuxième rebond. Car le Covid n'est pas la grippe, c'est un virus contre lequel nos défenses n'ont pas l'habitude de se battre. Et il n'a, a priori, aucune raison de s'éteindre tout seul avec l'arrivée des beaux jours.
Et le bilan global en France dépasse aujourd'hui les 12 000 victimes avec donc 7 066 malades toujours en réanimation. On va y revenir bien sûr, mais l'autre information de la soirée, c'est l'accord conclu hier soir entre les 27 ministres des Finances de l'Union européenne. Un accord au forceps après 2 semaines de vidéo-discussions houleuses entre pays du Nord et du Sud. Et c'est le couple franco-allemand qui a permis de trouver un compromis entre d'un côté italiens et espagnols et de l'autre les néerlandais. Bonjour Angélique Bouin.
Bonjour.
Vous êtes la correspondante de France Inter à Bruxelles. L'accord porte donc sur près de 550 milliards d'euros mobilisables très rapidement.
Oui, en 2008, l'Europe avait fait trop peu, trop tard pour contenir la crise financière. Cette fois, la réponse est massive et n'a jamais été aussi rapide, se félicitent plusieurs États membres. Les 240 milliards d'euros du fonds de secours de la zone euro seront bien débloqués, à condition que l'argent ne serve qu'à réparer les dégâts directs ou indirects liés à la pandémie. Suffisamment vague, la formule convient à tous. 100 milliards de prêts garantis collectivement financeront du chômage partiel et 200 autres milliards d'euros seront mobilisés pour soutenir les entreprises entreprises, les PME en particulier. Des prêts garantis collectivement pour faire face à l'urgence, mais les 27 ont aussi discuté de leur avenir, de ce plan de relance réclamé à cor et à cri par 9 pays, dont la France, pour soutenir la future reprise économique. Le sujet qui fâche, celui d'un endettement commun pour le financer, a été soigneusement mis de côté et renvoyé au prochain sommet des dirigeants, mais le principe d'un vaste plan de reconstruction est acté, c'est une avancée. Cet accord marque un jour important pour la solidarité européenne. On dit de concert hier soir le ministre français Bruno Le Maire et son homologue allemand.
Merci Angélique Boin, en direct de Bruxelles ce matin pour Inter, et notons que les chefs d'État et de gouvernement de l'Union doivent encore valider cet accord. La France de son côté a revu à la hausse son plan d'urgence qui va passer de 45 à 100 milliards d'euros. Le déficit public pourrait donc monter à 7,6% du PIB. Rappelons que la règle européenne était avant la crise de 3% maximum et la dette pourrait grimper à 112% du PIB. 100 milliards d'euros donc qui serviront notamment à financer les mesures de chômage partiel, près de 7 millions de salariés français concernés, et les primes qui seront accordées au personnel soignant et à certains fonctionnaires. Le montant de ces primes est en cours de discussion, mais il sera conséquent, a dit hier Gérald Darmanin. Accord en vue également pour réduire la production de pétrole brut, dont les cours ont chuté depuis le début de la crise sanitaire. Le scénario envisagé par les pays producteurs est la réduction collective de 10 millions de barils par jour pour les mois de mai et juin. Mais le Mexique n'a pas encore donné sa réponse. Les discussions doivent donc reprendre aujourd'hui, Ali.
France Inter, 7h06, la suite du journal, Agnès. Et en France, le président de la République consulte tous azimuts avant sa prise de parole lundi soir.
Emmanuel Macron doit s'entretenir ce matin avec les dirigeants européens de sa famille politique, puis avec les partenaires sociaux, syndicats et patronats, le tout bien sûr par visioconférence. Mais hier, c'est bien physiquement qu'il s'est rendu à Marseille pour rencontrer le professeur Raoult, une visite surprise auprès du promoteur du traitement du coronavirus par un dérivé de la chloroquine, un antipaludéen. Le professeur Raoult a ainsi présenté au chef de l'État les résultats de sa dernière étude qui porterait sur plus d'un millier de patients avec un taux de mortalité de l'ordre de 0,5% et un taux de guérison dépassant les 90%. Retour sur une visite qui a fait couler beaucoup d'encre avec Olivier Martoc.
On ne sait rien en fait de ce que les deux hommes se sont dit. La visite présidentielle dans un IHU méditerranéen totalement bouclé par les forces de l'ordre a été longue, plus de 3 heures, ce dont se félicite Christian Deveau, l'un des chercheurs de l'IHU, également membre du Haut Conseil de la Santé publique.
C'est une bonne chose pour l'IHU que le président soit venu jusque-là, ce qui lui permet en fait de voir en direct la façon dont les gens ont abordé le problème et éventuellement se faire une opinion sur les différences qui peuvent exister d'un endroit à l'autre sur la façon de traiter ses patients. Le politique est obligé de se fier aux conseils qui lui sont donnés et c'est sûr que lorsque les conseils sont divergents, peut-être que la meilleure façon c'est effectivement de venir soi-même se forger une opinion.
Une chose est sûre en revanche pour les équipes qui travaillent avec le professeur Raoult, meurtrissant par toutes les polémiques, cette venue d'Emmanuel Macron fait du bien. Ludivine est
ingénieure en biologie moléculaire. Je m'occupe de la plateforme de séquençage au débit. Oui, ça fait plaisir. C'est une forme de reconnaissance pour nous parce qu'on travaille très très dur. On compte plus nos heures, donc on est content.
Près de 68 Marseillais ont fait des tests de dépistage à l'IHU. 1061 patients sont entrés dans l'étude présentée hier par Didier Raoult au président. Marseille. Olivier Martoc, France Inter.
Les travaux du professeur Raoult ne font pas l'unanimité dans le monde scientifique. Le port du masque non plus, d'abord jugé inefficace, il est aujourd'hui de plus en plus recommandé. D'où la décision au début de semaine du maire de Sceaux, en région parisienne, d'obliger ses administrés à sortir bouche et nez couverts. Un arrêté suspendu hier par la justice, au grand dam donc du maire de Sceaux, Philippe Laurent, joint par Maxence Lambrec.
Je suis pour ma part convaincu et de très nombreux experts médicaux, l'Académie de médecine et bien d'autres le disent, qu'il faudra arriver au port obligatoire d'une protection, notamment lors de la période de déconfinement. Ça fait des semaines et des semaines que cet attentisme existe, ça fait des semaines et des semaines qu'on commence par nous dire que le masque n'est pas utile, et ensuite on nous dit bah peut-être, pourquoi pas. C'est parce que l'État ne décide pas, c'est parce que l'État est attentiste, parce que l'État est velléitaire, que nous sommes amenés, nous les maires, à prendre sa place et à décider dans l'intérêt général des populations. Combien faudra-t-il encore de décès supplémentaires parce que les gens ne se seront pas assez protégés? Nous avons montré le chemin, on nous sanctionne pour ça. C'est scandaleux.
Et c'est justement au gouvernement de décider et non pas aux élus locaux, estime de son côté maître Patrice Spinozzi, avocat spécialiste des libertés publiques.
Ces arrêtés qui sont pris par les maires ne doivent pas être maintenus. Pour nous, les maires n'ont pas le pouvoir de décider d'interdire des masques dans l'espace de leur ville ou de rendre plus contraignantes les mesures du confinement. Cela appartient au gouvernement et au gouvernement seul. Et on ne peut pas laisser les maires, comme des shérifs, décider chacun dans leur ville de ce qui doit être fait à l'égard des citoyens. On touche là aux limites du pouvoir de police des maires.
Un propos recueilli par Victor Maté. Autre geste barrière, les contrôles de température de plus en plus répandus à l'entrée des entreprises et de certains commerces comme à Cannes. Faustine Calmel.
En entrant dans leur supérette habituelle, les Cannois doivent désormais se laver les mains et présenter leur front à un thermomètre laser.
C'est une salariée du commerce qui a des gants et un masque.
David Lisnard, maire de la commune.
Et donc, prend la température. Si la personne a plus de 38 de température, on lui propose de faire ses courses pour elle et de la livrer.
Une liste de médecins est alors remise au client, contraint de rentrer chez lui. Ces thermomètres laser, ils ont déjà servi lors d'une autre épidémie, celle du virus Ebola. En 2014, tous les passagers en provenance de pays touchés devaient se soumettre à une prise de température à l'aéroport de Roissy. Et cela pourrait être utile aussi dans la stratégie de déconfinement à venir, assure Martin Blachier, médecin de santé publique.
C'est une mesure qui peut être intéressante au même titre que de dépister les contacts via une application, que d'appliquer des mesures barrières comme ils font en Asie très strictes, que de tester largement les gens pour isoler les cas positifs, prendre la température, n'empêchant que les gens qui aient de la fièvre rentrent dans les commerces. Ça fait partie de cette famille-là.
Le médecin estime que 10 à 15% seulement de la population est aujourd'hui immunisée et qu'il faudra donc continuer à appliquer les mesures barrières pour éviter un deuxième pic épidémique.
Les contrôles sur les routes vont être renforcés ce week-end, Agnès.
Avec le début des vacances de printemps pour la zone B, les académies notamment d'Aix-Marseille, Amiens, Nancy-Metz et Orléans et le week-end de Pâques, certains pourraient avoir envie de prendre l'air, ce qui n'est pas possible. Et pour renforcer les effectifs, quelques 5000 élèves, gendarmes et policiers, dont les cours sont suspendus, vont être déployés sur le terrain, comme ces jeunes recrues en Ille-et-Vilaine, jointes par Ariane Grissel.
Quand il a fallu fermer l'école de police de Périgueux, Corentin Fralin, 25 ans, a rejoint le commissariat de Rennes, visiblement pas très inquiet.
On a reçu plusieurs mails du directeur qui nous a dit d'anticiper pour être prêt à aller en stage dans les commissariats. Parce que normalement, le stage aurait dû intervenir un mois et demi après. J'étais lancé directement dans le Grand Vin avec des connaissances et j'étais confiant, on va dire. Les tapages ou les violences conjugales qui sont dues en partie au confinement, on avait un peu anticipé en école en préparant des cas similaires.
Renfort alors que 15 000 policiers sont absents pour cause d'épidémie. Nathalie Fraîche est commissaire à Rennes.
On a fait un point en fait avec les écoles pour savoir à quel niveau ils en étaient et on a évidemment adapté leur emploi à leur niveau de formation.
Sous ses ordres également Alexis de Prémorel, 25 ans, lui aussi élève commissaire. Cette mission inattendue liée au coronavirus ne le refroidit pas, dit-il, quant à ses choix professionnels.
Non du tout, puisque on effectue quand même des missions qui sont importantes, donc les contrôles des attestations, la sécurisation de transports sanitaires de patients extraits des hôpitaux parisiens pour aller dans des hôpitaux de province.
Tout s'alterne avec des cours à distance. Le dispositif doit durer jusqu'à la fin du confinement. Quant à savoir quand et comment sera validée leur formation, les jeunes policiers ont beau mener l'enquête, le mystère reste entier pour le moment.
Enfin, c'est un phénomène étrange qui se produit tous les soirs à 19h à Paris. Des dizaines, des centaines de joggeurs qui partent à l'assaut du bitume. Conséquence de l'interdiction depuis mercredi de courir entre 10h et 19h. Reportage hier soir sur les bords du bassin de la Villette où Timur Özturk, les coureurs jugent cette limitation horaire contre-productive.
Au bord de l'eau, sur la piste cyclable, entre les promeneurs, évitant les chiens en laisse et les enfants, partout des joggeurs. Basket aux pieds, Dominique n'en croit pas ses yeux.
Moi, ça m'effraie un peu en fait. Je me sens pas à l'aise. Je croise régulièrement des gens qui transpirent, qui respirent fort. Courir avec un masque, c'est pas évident et en plus, on peut pas en avoir. C'est un peu un semi-marathon tous les soirs ici. Hein.
Des habitués de la course, on en croise. Comme Clément, il porte le maillot du marathon de Paris qu'il a terminé et distingue de nombreux amateurs dans la foule.
On voit les néo-joggeurs à leur rythme et à leur tête rouge.
Le souffle court, Antonin est l'un d'eux. Il critique ouvertement la décision d'interdire le sport en journée qu'il estime contre-productive.
J'ai jamais vu une autoroute de joggeurs aussi énorme. Je ne comprends pas comment on a pu ne pas imaginer que du coup, les personnes qui étaient étalées sur une journée entière se retrouvent tous et toutes à 19h, ce qui est beaucoup plus dangereux en fait.
Conséquence de cette affluence, certains joggeurs pensent réduire leur activité sportive, voire cesser de la pratiquer en extérieur.
Ou alors courir avant 10h, mais c'est un peu tôt.
Par exemple, merci Agnès Soubiran et à tout à l'heure.